En bref, ceci encore, en Italie, attentat contre deux véhicules de l'armée, un policier a été tué et deux autres ont été blessés. On soupçonne les Brigades Rouges d'être à l'origine de cet acte criminel. À Genève, le chef du bureau de l'aéroflotte quitte précipitamment notre territoire. Les autorités révèlent ensuite que ce départ est lié à des activités d'espionnage. Passons maintenant au bulletin de navigation et à la météo avec Eric Otenagirard.
Bonjour. Eh bien, c'est pas très très bon ce matin. Le lac de Mora à Mora, il pleut. Il y a un léger vent du sud-ouest. Le lac est légèrement agité. La température de l'eau, 21 degrés. Celle de l'air, 17 degrés. À Bienne, il pleut aussi. Un vent du sud-ouest, force 2, souffle. Le lac est légèrement agité. La température de l'eau, 18 degrés. Celle de l'air, 18 également. Sur le lac de Neuchâtel, à Neuchâtel, il pleut aussi. Il y a un vent d'ouest, force 1, des vaguelettes, la température de l'eau est de 20 degrés, celle de l'air de 18 degrés. À Yverdon, il pleut aussi, il n'y a pas de vent, là, le lac est calme, la température de l'eau 19 degrés, celle de l'air 15 degrés. Au lac de Joux, le sentier, il pleut au sentier, il y a un vent d'ouest, force 2 à 3, le lac est agité, la température de l'eau 17 degrés, celle de l'air 15 degrés. Au Léman, enfin, à Genève, le temps est couvert, il n'y a pas de vent, le lac est calme, 18 degrés pour la température de l'eau, 18 pour celle de l'air. À Lausanne, il s'est également couvert, un vent du sud-ouest, force 2, le lac est tout de même calme, température de l'eau 20 degrés, celle de l'air 19 degrés. Au Bouvray, enfin, il pleut, un vent d'ouest, force 1, le lac est agité, la température de l'eau 20 degrés, celle de l'air 18 degrés. La météo de Cointrin maintenant, elle prévoit une amélioration du temps avec une tendance aux éclaircies et de faibles vents d'ouest.
Merci et bravo pour la météo. Eh bien voilà, prochaine information, que je les dis encore, dans une heure sur la 1 et 11 heures sur la 2.
Merci.
Voilà, c'est à vous faire à Florence.
Merci, merci Georges Glatz et j'espère que la météo aura raison parce que nous attendons un hélicoptère ici à Mervilliers pour nous rendre visite de Berne. Alors, le résultat du concours... Quel est le peintre né à Courgenay en 1945, auteur de bande dessinée? Eh bien, il s'agit, mon cher Michel Champion, de...
François Daniel Mons.
Et vous, vous en avez les armoires pleines de ces bandes dessinées. Eh bien, c'est Madame Blanche Blush à Bienne qui gagne la 9e corbeille. Elle recevra, entre autres, une veste coupe-vent KV marquée le démocrate. Donc, il n'y a pas d'abonnement au journal, mais néanmoins une présence jurassienne au-delà de ses frontières. Et puis, je le rappelle, on a ajouté ce matin 4 portions de truite au restaurant de la Couronne de Mervilliers, ainsi que tous les dons de l'Office du tourisme jurassien. Bravo madame et à bientôt. Eh bien, maintenant, deuxième partie de Paradeux, toujours en direct de Mervilliers sous la pluie en attendant le soleil. Nous allons parler d'un sport nouveau, du powerlifting. Alain Bietri, vous êtes troisième médaille de bronze dans la catégorie 75 kilos. Je crois qu'il y a 11 catégories dans le powerlifting. Qu'est-ce que le powerlifting?
Le powerlifting, c'est une compétition internationale. Donc, nous sommes le dernier pays à participer à ces championnats. Nous sommes tout nouveaux, disons, comme sport en Suisse. On est le dernier né et nous avons créé le club athlétique à Courgenay il y a 2 ans. Donc nous sommes une très jeune société, ça fait 2 ans qu'elle est créée. On le doit beaucoup à Marcel Varré qui est un pionnier de ce sport dans la région. Nous sommes le seul club dans le canton du Jura à pratiquer ce sport.
Et comment il se pratique ?
Alors, la pratique du sport, on peut, disons, un peu l'assimiler à l'haltérophilie. Nous utilisons le même matériel, mais dans différents mouvements. Ce sont des mouvements bien précis qu'on pourra, disons, parler tout à l'heure, les expliquer correctement.
Mais le powerlifting, power, ça veut dire force, lifting, quelque chose qu'on soulève.
Moi, je me souviens de poids, oui.
Oui, je me souviens d'avoir vu très fréquemment les cirques chinois où on voit des gens qui soulèvent des jarres, des sortes de poids, de pierres énormes. Est-ce que c'est une chose qui se rapproche tout en étant codifiée sportivement?
Ça se rapproche, disons, de notre sport, mais donc nous sommes basés sur trois mouvements bien précis par rapport à la musculation du corps.
Et les engins que vous soulevez ont aussi une forme tout à fait déterminée et précise.
C'est très précis, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est le matériel de l'haltérophilie que tout le monde, disons, connaît, un sport qui est développé, disons, plus que le nôtre.
Et on va de quel poids jusqu'à quel poids?
Alors, c'est le poids, disons, c'est par catégorie de... Donc, on a dit qu'il y a 11 catégories. On lève des barres qui peuvent arriver très haut, c'est-à-dire qu'au point de vue championnat du monde, il y a des barres de 450 kg qui peuvent être levées en une seule fois.
Parce qu'on peut lever parfois en plusieurs mouvements.
Ça dépend de l'entraînement qu'on suit. On a différents entraînements, c'est-à-dire qu'on peut très bien s'entraîner sur la musculation. Le culturisme, qui est pratiqué énormément en Suisse, peut-être pour vous expliquer, à Lausanne, il y a 1200 personnes qui pratiquent ce sport.
Il n'est pas dangereux ?
Il n'est pas du tout dangereux si on s'entraîne, disons, correctement et par rapport à ses possibilités.
Alors, quelles sont les précautions à prendre ?
Des précautions, c'est de lever des charges à sa mesure, et de suivre surtout un entraînement régulier, c'est ça, disons, qui est primordial, comme dans n'importe quel sport.
Quand vous avez un jeune homme qui vient, ou une jeune fille peut-être?
Également, il n'y a pas de problème.
Alors, qui vient vers vous et vous dit, voilà, j'aimerais commencer un entraînement de powerlifting, qu'est-ce que vous lui conseillez et que doit-il ou doit-elle faire?
Au début, je pense qu'il faut oublier, disons, les charges lourdes. Il faut se baser uniquement sur la petite musculation, la culture physique. D'ailleurs, le powerlifting peut être un à côté important pour tout autre sport. On voit maintenant que dans le football, le hockey ou la course éventuellement, une musculation est nécessaire. Alors c'est la seule façon, disons, d'avoir un développement musculaire du corps.
Mais est-ce qu'il est harmonieux, ce développement musculaire, ou au contraire, est-ce qu'il provoque des formes un peu trop exagérées?
Trop exagérées, j'irai pas jusque-là, disons, mais je pense que ça, c'est d'après surtout l'entraînement qu'on a programmé.
Parce qu'on peut déterminer de développer tel ou tel muscle.
On peut travailler chaque muscle du corps. Nous avons des machines de musculation pour les jambes, les bras. On se fait des programmes vraiment bien précis.
Alors pour le powerlifting, quels sont les muscles travailler en premier lieu?
Le powerlifting, c'est une compétition internationale. Là, nous sommes basés sur trois mouvements. Et on a un entraînement à raison de 3 à 4 entraînements par semaine, ce qui représente entre 8 et 10 heures d'entraînement. Et là, donc, on s'entraîne avec un programme bien précis, c'est-à-dire qu'on fait des séries répétitives pour arriver à un top niveau avant chaque compétition.
Alors, John Gostelli, vous êtes champion suisse dans la catégorie des 100 kilos. Vous avez soulevé 540 kilos. C'est à vous à nous dire comment vous vous y êtes pris et comment vous êtes arrivé à ce beau résultat.
Il a la carrière, d'ailleurs.
Voilà, donc ces 540 kilos sont soulevés en 9 fois. C'est-à-dire que la compétition de powerlifting se divise en 3 parties bien précises. Comme Alain Bietri vous l'a dit, donc ça travaille toute la musculature. Alors, les mouvements prévus pour ce powerlifting utilisent exactement toute la musculature. Alors, en premier, ça s'appelle, je m'excuse pour les termes qui seront donc de l'anglais, mais comme c'est un sport qui arrive des États-Unis, la terminologie est en anglais. Donc, le premier mouvement se nomme un squat, c'est-à-dire une flexion de jambe, si on veut faire une traduction, et travaille tous les muscles du bas du corps, dès les lombaires, donc jusqu'à la pointe des pieds. Pour ce faire, on prend un haltère, donc le même modèle que les haltérophiles. On le pose sur des chevalets et des aides chargent la barre jusqu'au poids désiré par l'athlète. En l'occurrence, pour cette flexion de jambe, personnellement, à la Sotfonds, j'ai demandé un premier poids de 195 kg. Cette barre se pose sur les épaules. D'après les normes internationales, on doit ensuite reculer de minimum un pas, stabiliser la charge, c'est-à-dire que le corps et la barre ne bougent plus du tout, et l'arbitre nous donne l'ordre de faire la flexion. À ce moment-là, l'athlète doit s'accroupir et avec le fermure, briser la ligne horizontale. Dès ce moment-là, il remonte et de nouveau stabiliser et la barre et le corps. Et à ce moment, l'arbitre donne le mot rack, qui veut dire de remettre l'haltère en place. Alors pour que le mouvement soit réussi, il faut que la flexion soit assez profonde et que l'on puisse stabiliser aussi bien au départ qu'à l'arrivée. Ensuite de quoi, on a droit, si on a réussi la première barre, à une deuxième. À ce moment-là, moi j'avais demandé 205 kilos, donc on monte de 10 kilos supplémentaires, on refait la même flexion, et on a droit encore à une troisième barre. À ce moment-là, j'ai donc pris 210 kilos, et le mouvement a été réussi aussi. Maintenant, le deuxième mouvement travaille plutôt la musculature du haut du corps. Pour ce faire, la barre est de nouveau placée dans un chevalet, mais l'athlète se couche horizontalement sur un banc, avec la tête sous la barre haltérophile. On prend la barre avec les deux mains, on la décroche, on la descend sur la poitrine. À ce moment-là, l'arbitre tape dans les mains, ça donne l'ordre de remonter la barre, c'est-à-dire donc de la repousser pour la mettre de nouveau sur les chevalets. Avec aussi donc trois barres, mes barres personnelles, 120 kg, 125 kg, et j'ai raté 127,5 kg, puisqu'on a le droit de monter par 2,5 kg pour la dernière barre. Et le dernier mouvement, qu'on appelle le deadlift, c'est-à-dire un soulevé de terre. Or, la barre haltérophile est posée au pied de l'athlète, et on doit faire un mouvement, c'est-à-dire empoigner la barre et se redresser. L'athlète, une fois son mouvement terminé, donc doit stabiliser la barre, c'est-à-dire se trouver debout, avec les épaules, en jargon athlétique, ça s'appelle verrouillé, donc on tend les épaules en arrière, les bras en bas, avec bien sûr la barre à bout de bras. Et là, on a aussi donc trois essais. Alors, ma progression là-dessus, 195 kilos, 205 kilos et raté 215.
Et alors, à quel moment est-ce que vous êtes arrivé à ces 540 kilos?
Alors, on additionne toutes les meilleures barres. Alors, comme je vous ai parlé de la première, donc au squat à 210 kilos, la deuxième barre qui était de 125 kilos, ça s'appelle le bench press, donc le développé couché, et la troisième barre, la meilleure, donc 205 kilos, qui était le soulevé de terre, on additionne ces trois chiffres et ça donne le résultat.
Eh bien, je ne sais pas si notre amie Jocelyne Farine va soulever des barres, va faire du powerlifting, mais elle a quelque chose à dire.
Elle a autre chose à faire. Je remercie Alain Bietri, qui est champion suisse, et John Gosselli, qui est également champion suisse, de nous avoir expliqué enfin ce qu'est ce nouveau sport, le powerlifting. Eh bien, Jocelyne Farine, vous n'allez pas soulever des barres, mais vous allez soulever peut-être des casseroles pour nous permettre d'écouter la dernière recette de la grand-maman de Cécile pour Paradeux en direct de Mervilliers.
Et bonne journée à toutes les grand-mères. Aujourd'hui, nous avons une soupe de pommes de terre. Vous prenez 4 grosses pommes de terre, 2 litres et demi d'eau, du sel, 3 décilitres de crème fraîche, un gros bouquet de persil, 2 poignées, 2 petites tranches de pain. Vous coupez finement vos pommes de terre, vous les cuisez dans de l'eau salée, vous les retirez, les égouttez et les écrasez à l'aide d'une fourchette. Il faut absolument que l'on retrouve des petits morceaux de plus ou moins de grandeur différente. Vous les remettez dans l'eau salée, ensuite vous préparez la soupière ainsi. Dans le fond de votre soupière, vous mettez les 3 décilitres de crème fraîche, un gros bouquet de persil haché, 2 poignées de petites et très fines tranches de pain. Vous versez dessus le contenu de la casserole, les pommes de terre et l'eau salée, et vous servez immédiatement.
Et voilà, c'est tout. Voilà, vite, vite. Thank you. Si vous voulez la soupe de pommes de terre, vous téléphonez au 021 21 75 77. Nous vous enverrons la recette. Mousse Boulanger, maintenant, nous avons quitté le powerlifting et nous accueillons de spéléologues. C'est au fond un sport, c'est au fond une science qu'on pratique beaucoup dans le canton du Jura.
C'est surtout une curiosité. On pourrait peut-être demander tout d'abord à M. Pierre Meury, qui est géologue, si la conformation du terrain de notre Jura est propre à la spéléologie.
Oui, il se présente très bien pour pratiquer ce sport parce qu'on est dans une région principalement composée de calcaire et de montagne, ce qui permet donc à nous autres spéléos de pratiquer ce sport en toute quiétude.
Alors, Orlando Orlandini et Christian Prenet sont des spéléologues, mais vous aussi, M. Meury, vous êtes un spéléologue.
Oui, je suis surtout spéléologue. Du point de vue scientifique, je m'intéresse donc aux cavités.
Est-ce qu'il y a des curiosités dans ces cavités que vous découvrez dans le Jura?
Eh bien, on peut surtout dire que dans nos cavités ici dans le Jura, on trouve énormément de concrétions et de phénomènes karstiques qui se développent sur de nombreux kilomètres, en particulier dans des régions comme l'Ajoie, avec les grottes de Milandre, et aussi le parcours souterrain de la rivière souterraine de la Joulotte.
Monsieur Randini, vous êtes membre d'une société de spéléologie. Il y a une structure qui est faite ici dans le Jura?
Oui, disons, dans le Jura, il y a une structure qui est faite, et il y a des clubs qui travaillent énormément, disons, sur la région. Mais disons que mon histoire est un petit peu particulière, parce que j'ai été amené à m'intéresser, disons, des cavités du Jura, par un mandat qui m'a été donné par la Société helvétique des sciences naturelles de poursuivre un travail qui avait été commencé par un grand spéléologue suisse, Raymond Gigon, qui avait commencé, lui, l'inventaire des cavités du Jura de la région, disons, qui se trouve entre le lac de Bienne et la frontière suisse, donc, du côté du Jura.
Et cet inventaire est fait, maintenant?
Non, cet inventaire est maintenant en travail. Monsieur Gigon ayant décédé l'année passée, ce travail était resté en plan. C'est moi, disons, qui a repris ce travail avec la collaboration de tous les clubs. Et c'est maintenant, disons, que nous sommes en train de le faire.
Est-ce que c'est un travail à surprise?
C'est un travail à surprise dans plusieurs domaines. La première surprise, c'est qu'on était parti au départ avec environ 300 grottes. Après maintenant 3 ans de travail, nous en avons 450. Et on peut dire que dans le Jura, chaque sortie nous amène des nouvelles découvertes. Et une autre facette, disons, des surprises, c'est que, dans le fond, les découvertes que nous pouvons faire dans les grottes du Jura, tant, disons, du point de vue spéléologique pur que du point de vue archéologique, paléontologique, ce sont très grands. Nous trouvons très souvent, disons, des choses très intéressantes du point de vue scientifique.
Et vous n'avez jamais peur? Quand non. Vous descendez dans les grottes?
Non. C'est-à-dire, le spéléologue, c'est un petit peu comme le montagnard, doit avoir peur pour éviter les dangers, mais doit savoir vaincre sa peur.
C'est surtout une question d'organisation et de prudence.
Oui.
Peut-être
oui.
D'intelligence. Christian Prenet, quel est le gouffre dans lequel vous êtes descendu et qui vous a le plus impressionné ici dans le Jura?
Bon, bien, personnellement, c'est certainement le gouffre de la Rougeau.
Qui se trouve où?
Elle se trouve à proximité de Bellelay, et c'est un gouffre donc arrosé où un ruisseau descend en même temps dans les puits, en même temps que nous. Et
comment on y descend? Par une cheminée?
Oui, c'est vertical, et il faut utiliser pour cela des moyens donc techniques dont nous disposons, c'est-à-dire des cordes.
L'échelle de cordes, le filin?
Non, l'échelle de cordes reste maintenant au local. Nous ne prenons plus que les cordes simples, 10 mm. C'est une technique qui a énormément évolué ces 10 dernières années, qui est maintenant très au point et il n'y a pratiquement plus de danger de ce côté-là. Donc.
Et qu'est-ce qu'on trouve au fond de ce gouffre ?
Bien, il y a de très belles concrétions et il y a toujours un mystère, donc, puisque nous cherchons en vain la suite de ce gouffre qui se perd dans un siphon. Nous avons procédé à plusieurs recherches, mais toujours infructueuses.
Jusqu'à quelle profondeur vous êtes descendu ?
Dans ce gouffre-là, donc, ça n'est pas très profond, c'est assez difficile, mais ça représente 140 mètres. Mais donc, dans le Jura, il y a des gouffres très profonds qui peuvent aller jusqu'à 400 mètres.
Vous avez déjà eu la joie de pénétrer dans des chambres qui sont, on peut bien le dire, des sortes de merveilles d'ornement ?
Oui, oui, bien sûr, c'est une sorte de récompense lorsqu'on les découvre, surtout. Malheureusement, dans le Jura, il y a eu énormément de découvertes qui ont déjà été faites.
Pourquoi vous dites malheureusement ?
Parce que nous n'avons plus grand-chose à nous mettre sous la dent, en quelque sorte.
Mais c'est toujours un plaisir renouvelé que de descendre à nouveau dans un gouffre.
Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et à chaque sortie, on ressent quelque chose de nouveau, quelque chose d'impressionnant, en somme.
Vous avez fait cette expérience extraordinaire que, là, dans le sous-sol, avec la lumière que l'on projette sur les concrétions, on a envie de prendre et d'emporter avec soi de ces petites merveilles qui brillent, et lorsqu'on arrive à la lumière, elles semblent s'éteindre.
Oh, je crois que c'est là l'idée qu'on a lorsqu'on pénètre sous terre la première fois, mais en fait, nous sommes plutôt attachés à conserver ce qu'il y a sous terre, donc à ne rien emmener et ne rien salir si possible.
Vous n'êtes donc pas des collectionneurs, monsieur Orlandini ?
Non, pas tellement dans le fond. Disons que le spéléologue, lui, descend dans les grottes, non pas, disons, pour... Disons, le côté sportif de la spéléologie est peut-être le côté le moindre. Disons, s'il descend, c'est surtout pour ramener des renseignements et des données pour la science.
Et pour vous, Pierre Meury ?
Ah ben, je suis tout à fait de l'avis de M. Orlandini. Tout à l'heure, vous demandiez qu'est-ce qu'on peut trouver sous terre.
Oui.
Je pense que ça dépend des personnalités des gens, c'est-à-dire on trouvera toujours ce qu'on veut. Peut-être pour les gens pessimistes, on y trouvera du froid, de la pluie, la nuit. Et puis pour les gens optimistes, comme nous autres, on y trouvera la nuit aussi, le silence, une certaine confrontation avec soi-même, le travail scientifique, et puis une multitude d'autres choses qu'on veut bien aller chercher là en bas.
Merci Pierre Meury. Je pense qu'on peut résumer la spéléologie en goût de l'aventure, rencontre du mystère et bonheur de la réussite. Mousse Boulanger, nous allons donc passer le flambeau à Monsieur Deneria, à Michel Deneria, à Denis Fredkopf. Ils nous retrouveront à Ardon, dans le Valais. Nous leur souhaitons bonne chance. Et le président de la SRT Jura, Antoine Artaud, est venu passer le flambeau au Valais, du Jura au Valais.
Vera Mousse, nous sommes enchantés de cette première expérience vaste de participation à la radio. Toute la population a en effet pu s'exprimer cette semaine. Nous n'avons pas pu donner une image complète de tout ce qui se passe dans la République et canton du Jura, mais nous espérons que ce que tous les participants bénévoles ont présenté à cette radio vous a plu, chères auditrices, chers auditeurs. Si vous êtes contents de notre émission, Eh bien, écrivez-nous à la SRT Jura ou à la Radio Suisse Romande pour le dire. Si vous n'êtes pas content, évidemment, faites la même chose. Et si vous habitez le Jura, je vous invite encore à devenir membre de la Société de Radio et Télévision de la République et Canton du Jura, SRT Jura, 2900 pour autrui. La cotisation annuelle est de 10 francs et vous pouvez ainsi participer encore plus activement à la vie de la radio. Je salue cette première expérience de participation. Je sais que la qualité technique est difficile à atteindre, beaucoup plus difficile que dans un studio. Mais s'il faut choisir entre la participation et la perfection technique, nous les Jurassiens en choisissons sans hésiter la participation. Nous l'avons choisi cette semaine. Merci du courage que vous avez eu, chers membres de l'équipe de la Radio Suisse Romande. Je dirais à vous à la prochaine et à mon ami Hermann Pellegrini, président de la SRT Valais, et à nos chers amis valaisans, à vous la semaine prochaine. Au revoir, en avant tous pour la participation.
Bonne semaine aux Valaisans, mais que les Jurassiens ne quittent pas l'écoute et qu'ils écoutent ce qui se passe là-bas.
Merci Mousse Boulanger, merci de cette merveilleuse semaine passée à Mervelier dans ce Valterbi que je ne connaissais pas du tout. Pour moi et pour beaucoup d'autres auditeurs, je pense que cette semaine à Mervelier, c'était la découverte du Jura, une découverte peut-être différente sous d'autres aspects, mais très touchante, très généreuse, et ça nous a fait chaud au cœur. Eh bien, le moment est venu de prendre congé. Je remercie une fois de plus cette équipe, au-delà de la vitre, François Schiller, Françoise Rossi et Louise Apernay, de leur assistante constante. Et nous allons nous retrouver, bien sûr, comme chaque matin à 10h sur Radio Suisse Romande, pour vous parler de sociétés de sciences naturelles, de jardins botaniques, des eaux, de la pisciculture avec nos invités. Quant à moi, mon cher Pierre Chouinard, il ne me reste qu'à vous dire bienvenue pour votre école buissonnière.